Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de C'est ça qu'on aime, notre émission où on partage nos obsessions et nos coups de cœur du moment. Et j'ai vraiment un problème avec mes oreilles. Bref, j'espère que vous entendez bien parce que moi j'ai une oreille sur deux. C'est
oui,
un peu bizarre.
Un peu.
Écoutez. On va régler ce problème pour un autre podcast, puisque je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc voilà, c'est ça qu'on aime, l'émission où on partage nos coups de cœur et nos obsessions du moment. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur Facebook et YouTube, et laisser des commentaires sur le chat YouTube et dans les commentaires Facebook. On est aussi en audio sur Radio Mad, notre web radio. C'est assez pratique si vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez pas bouffer toute votre 4G en regardant une vidéo, vous pouvez aller écouter Radio Mad parce que vous allez nous entendre tout pareil. Et pour l'écouter, c'est www.mademoiselle.com/radio, comme ça c'est simple. Et pour réagir à l'émission, vous pouvez aussi tweeter avec le hashtag MadenLive sur Twitter. J'ai dit tweeter, donc ça marche. et maintenant que j'ai fait ma petite intro avec toutes les informations pratiques telles un contrôleur de la SNCF, je peux présenter mes invités. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Je suis en compagnie d'Esther, bonsoir. Notre rédactrice société et politique. Est-ce que ça va ?
Ça va très bien. J'ai hâte de vous parler.
Je suis aussi avec Cécile, que vous ne connaissez pas encore, qui est stagiaire à la régie pub de Mademoiselle.
Ouais.
Ça va, t'es pas trop stressée ?
Si, c'est mon premier podcast.
Ça va aller, t'inquiète, regarde.
Ça nous va. Sommes que bienveillance.
Et pour finir, une tête qui vous dit peut-être quelque chose. Oh, GG.
Bonjour.
À la tête de Virago en ce moment.
Absolument.
Tu es sur ta chaîne YouTube qui s'appelle OGG.
Absolument.
Parce que tu as décidé de plus t'appeler Oni Goubert.
Non, mais j'ai décidé d'enlever une centaine de consonnes dans mon nom pour simplifier la vie de tout le monde.
Comment va ton rhume ? Ça va ?
Ça va, je, voilà, peut-être je m'étoufferai pendant ce podcast. Mais
on a prévu de l'eau au cas où.
Ça fera un happening.
Merci à toutes d'être venues déjà, ça me fait très plaisir de vous recevoir toutes les trois. Et c'est vous qui allez parler pendant toute cette émission, puisque moi je suis là pour vous faire parler. Qui a envie de commencer ? Peut-être celle qui est déjà passée derrière ce micro lors de la journée du 8 mars pour interviewer Najat Vallaud-Belkacem au hasard.
Voilà. Ok, si ça m'a
l'air. Esther, ouais. Oui, de quoi veux-tu nous parler ce soir ? De qui veux-tu nous parler ce soir ?
Alors, je veux parler de Gaël Faye, qui est... un auteur, compositeur, interprète, mais aussi désormais écrivain. Je ne sais pas exactement comment le qualifier, parce que cette personne a tellement de casquettes différentes et fait tellement de choses merveilleuses qu'il n'y a pas suffisamment de mots pour le décrire. En fait, moi, j'ai...
Comment tu l'as découvert, ouais ?
Je l'ai découvert, j'ai entendu parler de son livre, en fait, pour commencer. C'est donc son livre s'appelle « Petit pays ». Il est édité chez Grasset. Et c'est, je pense que je l'ai entendu à la radio ou des choses comme ça, je ne sais pas exactement comment. Et je savais que ça traitait de sujets qui me touchent, parce que du coup, donc, pour finir de présenter la personne, donc Gaël Faye est un franco-rwandais, et en gros, il a vécu au Burundi, et il raconte en fait dans son livre, c'est pas son histoire, c'est pas autobiographique, mais en gros, ça reprend l'histoire du pays et pourquoi lui, il est parti du Burundi, et à cause notamment des guerres civiles, du génocide au Rwanda qui s'est répercuté sur le Burundi, etc. Enfin bref, c'est des sujets qui me parlent notamment par rapport à mes études, parce que du coup, je faisais des études en relations internationales, et en particulier, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique subsaharienne. Donc c'était un sujet qui m'a beaucoup intriguée. Donc j'ai commencé par m'intéresser à son livre, que j'ai lu au final il n'y a pas si longtemps que ça. Et avant, finalement, je m'étais du coup intéressée à la musique qu'il fait. Et...
Parce que attends, son livre est sorti quoi, à la rentrée littéraire de 2016
Il a eu des prix, il a eu plein de prix différents à partir de la rentrée littéraire 2016. Ouais, mais moi j'ai l'impression d'en avoir entendu parler même
pas réussi. Non, fin août 2016. Donc c'est la rentrée littéraire.
C'est ça, donc la rentrée littéraire. Et donc moi, je l'ai découvert à peu près à ce moment-là. Je l'ai lu seulement en janvier, je crois, le livre, ou février. Et en même temps, j'ai écouté du coup tout son album qui s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre, qui est génial.
Snoopy sur un croissant au beurre.
Pili Pili.
Alors, pili pili, en fait, c'est le nom d'un piment.
Oui, mais tu as dit sur un croissant au beurre.
Ouais. Sur un croissant au beurre.
Ah, foulard.
Pardon, je m'exprime. Okay, non, pas pardon, assez non,
c'est moi, c'est moi. C'est, tu sais, j'ai un peu de fièvre, alors. Ok. Là, je me suis dit, ok, je suis vraiment beaucoup trop loin dans la vie. Je comprends rien de cette phrase. Ok, pardon. Je vois. Vas-y, en continue. Fait,
non, mais c'est juste le titre de son album que.
Parce que je bois tes mots, hein. C'est pour ça. Hein, c'est...
Non, mais en gros, c'est le titre de son album qui s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre et qui est aussi le titre d'une des chansons. Et où il raconte, en fait, Pili Pili et croissant au beurre, c'est sa maman et son papa, en fait. Et sa maman est rwandaise et son papa est français. Et en gros, la chanson raconte la rencontre, en fait, entre ces deux personnes, etc. Et c'est super beau. Et moi, ce que j'ai adoré, en fait, chez cette personne, c'est vraiment, c'est devenu une obsession chez moi. Je regarde tout ce qu'il fait, j'écoute tout, etc. Il a aussi un groupe que, en fait, c'est Louise qui a fini par me dire, mais tu sais ouais. qu'avant de chanter tout seul, il avait aussi un groupe qui s'appelle Milk, Coffee and Sugar.
Ouais.
Et qui est génial aussi. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est de la poésie pure pour moi. Enfin, c'est du rap slam, mais c'est tellement poétique. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le livre. Tout le livre, il y a tellement de passages qui sont juste. C'est vraiment. Il joue avec les mots et c'est un art, quoi. Enfin, j'ai rarement vu ça.
Et donc du coup, on en a parlé un peu avant, et tu m'expliquais que toi, quand t'as lu le livre, tu pensais que c'était une autobiographie.
Quand je l'ai lu, en fait, je m'étais pas renseignée tant que ça avant. Je savais que le sujet me plaisait, et en fait, du coup, je l'ai pris comme une autobiographie. Et donc, le livre est au final relativement gai pendant tout le long, parce qu'en fait, donc, il raconte son enfance, enfin, il raconte l'enfance du personnage qui s'appelle donc Gabi, En fait, c'est l'histoire de son petit paradis, de son petit bout de pays où il est hyper heureux, en fait, où tout va bien. Et en fait, après, c'est une longue plongée un peu dans l'enfer, en fait, dans l'enfer de la guerre et de ce qui peut être le plus moche, des conflits qui font des milliers de morts. Mais toute la grosse première partie du livre, en fait, c'est très joyeux et c'est très gai et c'est... C'est plein de bonheur et plein de... On a l'impression qu'il sort ses souvenirs. Et en fait, ouais, moi, je l'ai pris. Je l'ai reçu comme son autobiographie. Et donc, au début, j'ai cru qu'il avait vécu tout ce qu'il racontait dedans. Et donc, il y a des moments de bonheur très grands. Mais quand on arrive dans les derniers chapitres, moi, j'avais l'impression de me prendre des baffes à toutes les pages, quoi. Enfin, ouais. J'ai fini le livre en pleurant comme pas possible. Enfin, j'étais vraiment... Ça m'a vraiment touchée au plus profond de moi. Et ça m'a fait réfléchir sur plein d'autres trucs aussi. Et j'ai cru qu'il avait vécu vraiment tout ça, et c'est sans doute ce qui m'a touchée le plus. Mais ce qui est le plus fort, en fait, c'est que même s'il ne l'a pas vécu, c'est des choses qui reprennent des éléments de contexte véritable, donc que d'autres personnes ont vécu de toute façon, en fait.
Oui, à mon avis, il n'est pas...
Il n'a pas inventé les faits, en fait. Enfin, c'est de l'histoire, en fait. Et moi, ça m'a... touché énormément parce que je l'ai pris comme une autobiographie et même une fois que j'avais fait le chemin de me dire en fait c'est pas une autobiographie mais bon ça reste du contexte qui est vrai, ça a remis en question tellement de choses dans ce que je me disais de ce que je voulais faire de ma vie parce que enfin je fais des études en sécurité internationale donc on traite pas mal des conflits, de la résolution des conflits, de reconstruire la paix, etc. Et en fait je me suis sentie tellement petite et nulle devant ce qui pouvait se passer dans le monde que j'étais vraiment genre qui es-tu pour prétendre vouloir ne serait-ce que toucher du doigt ces sujets-là alors que t'as jamais vécu rien de tel et que bah, t'y connais rien en fait. Au final, je pense que tant que tu l'as pas vécu, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Donc, moi, ça m'a énormément touchée, ouais.
Et donc du coup, t'as écouté sa musique après avoir lu son livre, c'est ça ?
J'ai écouté l'album Pili Pili sur un croissant au beurre un tout petit peu avant. Je pense de lire le livre.
Du coup, ça a été quoi le déclic qui t'a donné envie de lire le livre ? Parce que si t'en avais entendu parler pendant longtemps et que t'avais pas encore passé le cap, alors que c'était un sujet a priori qui t'intéressait ?
Je sais. En fait, c'est surtout que j'ai fini par avoir le temps et que j'ai un ami qui me l'a prêté le livre aussi. Et entre les deux, depuis, je l'ai acheté. Parce que je voulais quand même l'avoir pour moi. Mais à la base, c'est un ami qui me l'a prêté, en fait. Et du coup, au moment où il me l'a prêté, je voulais lui rendre assez rapidement. Donc, je l'ai lu direct. Mais j'avais écouté l'album juste avant. Et il y a une chanson qui s'appelle d'ailleurs Petit Pays, comme le livre. Et qui est très, très bien.
Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans son album Pili Pili sur un croissant au beurre, c'est qu'il raconte vraiment comment il a vécu, d'être métisse en France, d'avoir une histoire au Burundi, mais de ne pas pouvoir y retourner parce que c'était en guerre, que c'était vraiment très compliqué. Et en fait, quand il écrit cet album, il retourne au Burundi pour faire les clips. Et donc en fait tous les clips, donc notamment le clip de Petit Pays, je vais essayer de le mettre en lien, le clip de Petit Pays c'est le Burundi, c'est vraiment hyper, ça donne juste envie d'aller dans le pays parce qu'en plus lui il a vraiment une espèce de, enfin il y a son attachement à son pays forcément tu vois qui ressort dans ce clip là et c'est vraiment très beau.
C'est vraiment magnifique. Et moi, ce que j'adore dans ce titre-là en particulier, je pense que c'est le titre que je préfère de l'album, c'est qu'il y a un mix, en fait. Il parle en français. Et alors, je ne sais pas quelle est l'autre langue. J'imagine que c'est du Kirundi, parce que c'est la langue qui est parlée au Burundi. À moins que ce soit du Kinyarwanda, parce que c'est la langue qui est parlée au Rwanda, je ne sais pas. Je ne les parle pas, donc je ne suis pas capable de dire. Mais en tout cas, le mix est extrêmement beau. En fait, il y a ce refrain donc dans cette langue qui, je pense, est le Kirundi. Et après, il y a tous les couplets en français qui sont magnifiques. Et tout l'album raconte tellement de choses différentes. Il y a beaucoup la question d'identité dans son album, en fait. C'est beaucoup d'où je viens et comment je suis arrivée là et qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là. Et en même temps, j'ai ces souvenirs et comment je combine tout ça pour être moi, en fait. Et c'est très, très, très intéressant de voir, en fait, ce processus de construction. Moi, j'ai l'impression qu'il se construisait au fur et à mesure, en fait, à force d'écrire les chansons, que chaque chanson était un pas supplémentaire pour se construire lui-même et pour, je ne sais pas si c'était aussi pour dépasser ces choses-là qu'il avait vécues ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très joli. Donc je vous conseille vraiment de l'écouter.
Et d'ailleurs, c'est marrant que tu ne connaissais pas Gaëlle Faye. Enfin, tu as découvert vraiment grâce à son livre, c'est ça?
Ouais.
Parce que chez Mademoiselle, il y a eu des sessions avec lui.
Ouais.
Et il y a notamment Luciole qu'on a vu en interview là, en novembre, qui avait fait... Il a fait un projet. Je ne vais pas me souvenir du nom, mais je crois que c'était Gaëlle Faye et les Femmes Fantastiques, quelque chose comme ça. Et donc, il avait organisé un concert dans une salle à Paris avec 8 femmes qu'il trouve talentueuses, etc., pour les mettre en avant, pour qu'elles chantent, pour qu'elles montrent aux gens comme elles sont talentueuses et chouettes et fantastiques.
En plus, c'est une belle personne.
Et oui. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'ils ont sorti ensemble une reprise de Paris Mai de Claude Nougaro.
Qui est magnifique aussi.
Qui est assez... ça te met une petite claque.
C'est vrai. Quand tu prends 2 secondes, une fois que tu l'as regardé, genre...
Ouais.
Pour respirer.
Mais c'est marrant parce que moi, Gaëlle Faye, c'est un rappeur que j'aime beaucoup, que j'écoutais quand j'étais au lycée via Milk, Coffee and Sugar. Et c'était c'est ouf en fait de voir comment il évolue et comment en fait son engagement et prend le pas en fait sur juste son art c'est son engagement et du coup ça ça mêle les deux et c'est vraiment assez assez impressionnant.
Et moi je trouve que ça se voit beaucoup. En fait il va sortir un nouvel album le 14 avril et il y a un premier titre qui est sorti dont il a sorti le clip il y a je sais pas une semaine un truc comme ça qui s'appelle Irruption. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une rupture dans la manière dont il en parlait par rapport au texte d'avant, où avant, c'était justement beaucoup cette recherche d'identité et ses racines, etc. Et là, c'est une revendication et vraiment, c'est très militant comme texte. Je vais pas dire les paroles parce que je vais les déformer. J'ai pas du tout envie de les déformer parce que c'est trop beau, mais il parle de ces vagues qui arrivent d'hors de Paris pour rentrer par les égouts. Voilà, je les ai déformées et c'est moche. Alors qu'en vrai, c'est hyper beau. Allez juste écouter le titre qui est magnifique. Et pour moi, c'est vraiment encore plus militant. Et j'ai l'impression qu'il passe à une autre étape. Donc j'ai hâte d'avoir la suite de l'album, de l'entendre pour voir si c'est vraiment un truc qui se concrétise dans tout l'album ou pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on le voit vraiment grandir au fur et à mesure de ses projets, en fait. C'est hyper intéressant de le découvrir par petites touches. Enfin, du coup, moi, j'ai un peu tout découvert d'un coup, mais quand même, au fur et à mesure, je sens les étapes dans son œuvre.
Ouais.
Et c'est
Marrant, sur le chat, il y a Mickaël qui dit Gaëlle Faye a dû atteindre la résilience via son travail. Et je pense que c'est un truc comme ça, de En fait, travailler sur toi via les mots, sortir en fait ce que t'as en toi. Et en fait, du coup, après, ça t'emmène à une autre étape. Et maintenant, je pense qu'il va être totalement dans notre truc. En plus, bon, voilà, on est en 2017. Je pense que clairement, en termes d'engagement politique, cette personne va être présente. Donc, c'est assez ouf.
Mais il le dit dans certaines interviews, d'ailleurs. Il dit que, qu'en fait, il a utilisé l'écriture au départ aussi comme un moyen, mais l'écriture de ses chansons, en fait, c'est même pas l'écriture de son livre qui l'a aidé justement à dépasser ça, que c'était une sorte d'exutoire et de manière de se reconstruire. Enfin, il explique qu'il avait déjà fait ça à travers son album et que le livre, en fait, ça a été que du bonheur de l'écrire parce que justement, il se replongeait en fait dans ses souvenirs d'enfance qui sont heureux, en fait. C'est que du bonheur. Et voilà, c'est très très beau.
Merci Esther, c'est trop cool.
Ah, et je rajoute un tout petit truc. Je l'ai vu en live de manière très brève. Je suis allée voir à la maison de la radio. Il a fait une émission en live sur France Inter l'autre jour, L'Heure Bleue. Et même en live, il est génial. Donc en plus, il avait une carte blanche. C'était un mélange de poésie, etc. C'était vraiment génial. Si vous pouvez écouter d'ailleurs l'émission
C'est L'Heure Bleue, France Inter.
C'est L'Heure Bleue, ouais, sur France Inter. Et c'était il y a une semaine, genre 10 jours.
Est-ce que c'est le live dont tu nous parlais hier et que tu as voulu aller lui parler et que tu as perdu tes moyens?
Exactement, c'est celui-ci où j'ai commencé par le. Vous voyez, après j'ai tout tué. J'ai juste fait genre. Ton livre, c'est le plus important que j'ai lu pour moi. Et après, je me suis un peu liquéfiée sur place et je suis partie.
Mais c'est bien de lui avoir dit.
Mais en fait, je pense que.
Il est rentré, il a dit j'ai vu une meuf chelou.
je me suis un peu dit ça. Après, je me suis dit mon Dieu. Mais non, mais. Gagné.
Bah, en fait, je pense que pour toutes les personnes qui font des trucs de manière publique. Déjà que tu viennes les voir et leur dire que tu prennes sur toi, parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte, je pense, quand on est une personne publique, que les gens ont du mal à nous voir comme des êtres humains parce que nous, on se voit avec nos défauts, etc. Et du coup, de venir prendre le temps de dire, en fait, ce que t'as fait, c'est ouf, et ça m'a ouvert les yeux, et ça m'a fait un truc. Déjà, c'est un truc, t'es là genre, waouh. Déjà, tu vois bien avec nous, mademoiselle, les gens qui nous envoient des messages pour nous dire, c'est cool ce que vous faites. On est là, ah, trop bien, vous êtes trop chou. Quand il y a des gens qui ont 15 ans qui nous envoient... Je suis féministe et moi je suis là. J'aurais tellement aimé être féministe à 15 ans. J'aurais tellement aimé avoir eu mademoiselle, tu vois. Donc du coup, je pense que c'est un peu le même truc des gens...
Bah écoute, j'espère que je lui ai pas fait peur. Hein, en tout cas.
Je ne pense pas. À mon avis, il y a des gens plus creepy que toi, Esther, qui vient dire gentiment, j'ai beaucoup aimé ton livre.
Ça va.
Donc je disais, c'est bon, j'ai trouvé le podcast de L'Heure Bleue. Il est sur le chat et il sera bientôt sur l'article de Mademoiselle du replay demain.
Super.
Voilà. Est-ce que Cécile ou Aude, vous voulez prendre le relais?
Vas-y, Cécile.
Ok.
J'ai beaucoup de moins de choses à dire. Enfin, je vais être plus succincte.
T'inquiète, on va te faire parler.
Ah, oui.
Bon. Alors, moi, ça va être dur d'être concise parce que j'ai 4 mois d'aventure à raconter.
Waouh.
Ouais, cool.
Ça, c'est bien. Donc, je vais parler du dumpster diving. Littéralement, en français, ça veut dire plonger dans les poubelles. Et sinon, en canadien, ça s'appelle le déchetarisme. Voilà.
Déchetarisme, c'est un peu moins. C'est quand elle me. Cécile me dit, je vais parler du dumpster diving. Je fais, putain, oui, trop bien. Elle me fait, sinon, je peux le dire en français, déchetarisme. J'étais là. C'est un peu moins stylé.
Ouais, un peu moins classe. Et donc.
Du coup, comment t'as. Comment t'as découvert, comment ça t'est venu?
Donc, avant d'être en stage chez Mademoiselle, j'étais en Erasmus au Danemark pendant 4 mois. Et donc, un jour, on était en classe et une fille a fait un exposé sur le dumpster diving. Et elle avait 3 minutes pour nous convaincre de passer au dumpster diving.
Il faut que t'expliques ce que c'est, un Snoopy, quand même. Là.
Alors, je vais expliquer brièvement et après j'expliquerai en longueur. C'est le fait d'aller plonger dans les poubelles des supermarchés pour récupérer toute la nourriture qu'ils ont jetée pendant la journée et de la récupérer pour soit la donner à d'autres personnes, soit pour sa propre consommation.
Pour éviter le gaspillage, quoi.
Exactement. Je vais y venir juste, okay. Juste après. Et donc, elle avait 3 minutes pour nous convaincre de passer au dumpster diving. Et donc, ces 3 arguments, c'était que, 1, c'est gratuit. Donc, c'est déjà un très bon argument.
Oui.
2, c'est extrêmement bien pour l'environnement, car Ça fait des animaux tués pour rien, de la bouffe produite pour rien, du plastique, du carton, des personnes qui travaillent pour rien, parce que c'est des tonnes et des tonnes de nourriture jetées tous les jours. Et troisième raison, c'est que quand tu vas faire les cours, tu vas y passer une heure et demie, genre qu'est-ce que je vais manger ce soir, alors que là tu arrives, tu prends ce qu'il y a et tu fais avec ce qu'il y a, donc t'as pas à réfléchir à ce que tu vas manger.
Attention à bien parler dans ton micro, s'il te plaît.
Pardon. Et donc avec mes potes, on s'est dit, ouais mais c'est extraordinaire, et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer au Danemark ? Sachant que au Danemark, la nourriture est quand même assez chère. C'est un pays qui est assez cher. Et on n'était pas malheureux, mais c'est vrai que c'était souvent riz et pâtes. Et qu'on s'est dit, pourquoi ne pas avoir d'autres nourritures et sauver la planète en même temps. Donc la première fois qu'on a testé, c'était par pure curiosité. Et en fait, on avait un supermarché juste en face de la fac. Et donc du coup, un soir, on s'est dit, allez, on teste. Et en fait... Donc là, je parle de mon expérience au Danemark. Et en fait, il faut savoir qu'au Danemark, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas officiellement légal, mais en gros, vous ne pouvez pas vous faire arrêter parce que vous faites ça.
Mais en France, c'est illégal. Hein.
Je crois que c'est illégal.
Puisqu'il n'y a pas très longtemps, il y avait encore une... En fait, les gens de supermarché jetaient de l'eau de Javel sur les déchets pour pas que ça soit récupéré.
Mais maintenant, ils n'ont plus le droit de
Ils n'ont plus le droit de gâcher, mais ils n'ont pas le droit de le donner non plus.
Mais je crois que c'était pour éviter en fait qu'ils puissent être poursuivis en justice. Parce qu'ils imaginent conditions sanitaires, les gens tombent malades, ils pourraient les poursuivre. Voilà, franchement, c'était un truc comme ça. Mais c'est scandaleux de te dire qu'ils balancent de l'eau de Javel sur.
Sauf que maintenant, ils ne balancent plus, mais tu n'as toujours pas le droit d'aller récupérer. Donc il y a une espèce de vide d'hypocrisie au milieu.
Donc au Danemark, c'est pas interdit, c'est pas officiellement légal, mais en gros, personne ne peut vous arrêter pour ça. Et en gros, le pire qui peut vous arriver, c'est vous vous faites surprendre par un employé du supermarché. Et soit il est super sympa et il vous aide, soit il vous dit c'est pas trop cool, ça fait une mauvaise réputation pour le supermarché, allez-vous-en. Et je parle uniquement de mon expérience au Danemark parce qu'il y a très peu d'informations sur Internet sur ce sujet, donc je ne sais pas du tout à propos des autres pays. On a fait beaucoup de recherches justement et on ne sait pas trop. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on ne va chercher bien sûr que dans les poubelles qui sont dans des parkings. On ne va pas rentrer dans les locaux du supermarché. Donc voilà. Et donc du coup, on a testé par pure curiosité. On était un peu stressés, genre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va trouver. Et on arrive donc sur ce parking et on ouvre la poubelle. Et en fait, c'était une benne qui était pleine à craquer de nourriture. Donc une benne... une grosse benne pleine à craquer de nourriture, donc viande, poisson, légumes, fruits, pain. Il y avait aussi des boissons. Enfin, c'était vraiment, c'était varié.
Ils le mettent là parce que c'est périmé en fait à la base.
Alors, il faut savoir que on va dire 95% des choses que nous avons trouvées n'étaient pas périmées. Ça allait être périmé le jour d'après, soit 2-3 jours après, soit même des fois un an après.
Ouais. D'accord, ok.
C'est parce qu'on a changé le packaging. Alors, on peut plus mettre, c'est rose et pour le moment c'est vert.
Alors, au fil des mois, on a trouvé plein de raisons et des fois, on savait juste pas pourquoi ils les avaient jetés. Et alors, faut savoir qu'ils vont jeter tous les fruits ou tous les légumes qui vont être tout seuls. Genre, une banane toute seule, ils vont la jeter. ils vont jeter aussi, par exemple, vous allez avoir un paquet d'oranges et il y en a une qui est pas belle. Ils vont jeter tout le paquet alors qu'il y en a juste une qui est pas belle. Ils vont jeter...
Tu sais que t'es en train de me faire perdre foi en l'humanité, quand même.
Je regarde, après, il y a des belles personnes pour te faire retrouver foi en l'humanité, puisqu'ils vont les manger.
C'est marrant, parce que sur le chat, il disait tout à l'heure que c'est du friganisme. Et du coup, c'est là, je ne connaissais pas ce mot.
Ah, je ne connaissais pas non plus.
Et en fait, apparemment, c'est le fait de consommer tout ce qui est gratuit. Okay. Et donc, d'éviter de consommer dans le système monétaire actuel. Ouais. Donc c'est assez intéressant, mais c'est vrai que je pense que ça fait partie, à mon avis, le dumpster diving fait partie d'un mouvement comme ça, mais il doit y avoir beaucoup d'autres choses dans le friganisme. Et du coup, j'irai regarder ce que c'est, parce que c'est intrigué.
Mais c'est vrai qu'au fil des mois, on s'est rendu compte que ça devenait absurde d'acheter de la nourriture alors que tu pouvais l'avoir totalement gratuitement. Et du coup, en fait, on vivait plus que de ça. Okay. Et donc, en fait... tu développes au fil des mois une espèce de nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire que avant tu vas, enfin avant on allait au supermarché en mode oh il y a trop de choix, qu'est-ce qu'on va manger, on va pas pouvoir choisir. Et avec le dumpster diving, bah tu prends ce qu'il y a et tu crées à partir de ce que tu trouves en fait. C'est-à-dire que pour Halloween, on a trouvé une dizaine de citrouilles parce qu'ils jetaient toutes celles qui n'étaient pas belles parce que c'était des citrouilles de décoration. Et donc du coup, on a fait de la soupe à la citrouille, des tartes à la citrouille. On a fait un milliard de recettes avec de la citrouille et juste en fait, on mangeait ce qu'on avait et en fait on essayait de pas gâcher une deuxième fois et on essayait de tout consommer avant que ça soit vraiment mort. Et aussi, il y a aussi par vague, c'est-à-dire qu'un jour vous allez trouver genre la poubelle entièrement remplie de bananes. On ne sait pas pourquoi, mais il y avait des jours où c'était spécialement dédié.
Ce sont des cargaisons entières de choses dont ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus.
Mais alors attends, du coup, je ne suis pas sûre d'avoir bien suivi. Tu étais en Erasmus, c'est ça?
Ouais.
Ok, et donc tu étais tout le temps dans la même ville, tu faisais tout le temps le même supermarché ou t'as changé ?
Exactement. En fait, on habitait sur le campus et le supermarché était vraiment à 30 secondes de là où on habitait. Il y avait un autre supermarché qui était beaucoup plus grand juste à côté, sauf que eux, ils fermaient. Enfin, leur poubelle était à l'intérieur, okay. En fait. Et en fait, on n'a pas testé d'autres supermarchés, mais je sais que d'autres amis à moi avaient testé d'autres supermarchés au Danemark parce que c'est quand même. Assez connu au Danemark. J'ai vu, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a une vidéo assez marrante de deux mecs qui font ça à Copenhague. Et en fait, ils se font surprendre par un employé. Et en fait, l'employé les aide. Il les aide, il est super sympa. Cool. Et il leur dit bonne journée, revenez quand vous voulez.
Mais j'ai deux questions. J'ai le droit ?
Bah oui, merci.
vous avez jamais été malade ?
Non.
Honnêtement ?
Non, jamais.
Jamais ?
Jamais.
Ok. Parce que je me dis, de la cargaison de bananes, peut-être il y a la chikungunya, et du coup, il le jette, et du coup, bon, j'en sais rien. D'ailleurs, peut-être tu ne le sais pas toi-même. Peut-être que tu es malade et que tu ne sais pas. Tu as peut-être contracté un truc chelou. Et ma deuxième question, vous avez déjà été... on vous a jamais rabroué ou pris la main dans le sac en vous disant que, de dégager
Si, on s'est déjà fait prendre plusieurs fois parce que la poubelle était... Enfin, c'était un tout petit supermarché, la poubelle était juste... Enfin, il y avait une grille, en fait, et la poubelle était juste devant. On s'est fait surprendre plusieurs fois par les employés du supermarché, mais en fait, à part nous dire « allez-vous-en », voilà, ils savent très bien que c'est pas illégal et que c'est juste... ils veulent pas qu'on le fasse parce que ça donne une mauvaise image pour le supermarché, mais rien de... Nous, juste un petit coup de stress et puis on part, quoi. Mmh.
Mais après, sur le chat, il y a pas mal de gens qui disent... En fait, déjà, pour éviter le gaspillage, c'est bien de pas forcément jeter les produits que t'as achetés toi-même après la date de consommation. Enfin, genre un yaourt, ça se consomme encore un mois ou des trucs comme ça. Mais après, il y a aussi Alicia qui dit... En fait, c'est quand même assez... entre guillemets, dangereux, si tu fais pas gaffe, c'est-à-dire que si t'as des produits frais qui sont là depuis plusieurs heures... Donc vous choisissiez quoi comme produit ?
Alors en fait, il y a des règles qui se sont un peu instaurées au fil des mois, et en fait, on s'est renseigné de plus en plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un nouvel aliment, on se renseignait sur Internet, combien de temps tu peux le garder après la date de péremption, comment savoir si c'est bon ou pas. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on prenait beaucoup moins, c'est-à-dire que tout ce qui était produits laitiers... Bof, les bof, œufs. Les œufs, bof,
les
bof,
viandes, les poissons, viandes, ce genre de choses,
bof, enfin, bof. Ouais. Mais sauf qu'en fait, au fil des mois, on savait à quelle heure il sortait la poubelle. Donc on y allait juste après. Et il faut savoir aussi que j'étais au Danemark et qu'il fait très froid. Donc je pense que dans un pays chaud...
Il n'y a pas de rupture de la chaîne du froid.
Ouais, je pense que dans un pays chaud, ça aurait été totalement différent.
Okay.
Donc voilà. Mais à chaque fois qu'on trouvait quelque chose de nouveau, on allait se renseigner pour savoir si c'était bien ou pas. Et si on n'était pas sûr, on tentait pas, et aussi quand dans la poubelle, on prenait notre temps et on prenait pas tout ce qu'on voyait. C'est ça aussi le truc, c'est que tu prends pas tout ce qu'il y a dans la poubelle, tu prends ce que t'as besoin, parce que tu vas pas gâcher une deuxième fois.
Ouais.
Une question bête, mais parce que bon, c'est peut-être parce que j'ai de la fièvre, mais depuis tout à l'heure, j'imagine une immense poubelle et vous êtes tout petit et vous faites la courte échelle à 3 ou 4. donc voilà.
C'est vrai que t'as parlé d'une benne en même temps.
T'as parlé d'une benne et du coup, vraiment, je vous imagine sur les épaules les uns des autres, sur tous les 4.
Et ben.
Que j'ai imaginé que vous étiez 4.
Ben, presque.
J'ai vraiment de la fièvre, je crois. Donc, c'est quoi, c'est des
c'est
poubelles
vrai
comme
on y allait par 4 souvent.
Voilà, tu vois.
Non, en fait, juste à côté des poubelles, il y avait des petites cagettes en plastique et on les empilait.
Mon Dieu, qu'ils sont malins.
Oui,
mais du coup, juste pour revenir au truc des maladies, moi je me dis, en fait, si ça se trouve, ton système immunitaire apprend en fait à se défendre de de ces trucs-là, j'imagine. Là, nous, peut-être que si tu commences direct par le truc un peu craignos, dès le premier jour, tu tombes malade. Mais si au fur et à mesure, en fait, t'apprends, ton corps s'habitue et devient résilient à ce genre de choses, en fait, j'imagine.
Ouais, je pense aussi.
Mais est-ce que tu continuais à acheter des trucs quand même au supermarché? Parce que si tu t'as de la nourriture gratuite, mais en même temps, t'as pas tous les produits dont t'as besoin.
Alors d'un côté, tu t'habitues et tu te dis, je préfère manger gratuitement et pour la planète que d'acheter des frites et des burgers au supermarché, parce que bien sûr, on était étudiants en Erasmus, donc on mangeait pas très très sain. En fait, on continuait à acheter quand on n'avait plus. C'est-à-dire que si pendant, par exemple, 4 jours, on trouvait que des bananes, on pouvait pas s'alimenter que de bananes. Donc il fallait bien acheter quelque chose d'autre à côté. Mais en fait, si on trouvait et que ça nous suffisait, on n'allait pas acheter parce qu'on se disait que c'était des sous qui pouvaient aller ailleurs et qu'on n'en avait pas forcément besoin.
Ok, et du coup, vous faisiez ça en coloc, c'est ça ?
On a commencé avec 3 de mes copines. Et en fait, bien sûr, on a trouvé ça extraordinaire, donc on en a parlé à tout le monde. Et on était un truc genre 150 étudiants Erasmus sur le campus. Et en fait, j'étais un peu...
J'imaginais 150 personnes tous les soirs.
Et ça s'est répandu hyper vite, en fait. Et j'étais un peu la chef du mouvement. Et en fait, les gens n'osaient pas y aller quand j'étais pas là. Parce qu'ils avaient trop peur.
C'est marrant.
Et du coup, tous les soirs, je recevais 10 messages. Genre, on y va, on y va. Et du coup, on y allait tous les soirs et...
C'est un temps que t'es obligé d'avoir chaque soir. Tu sais pas ce que tu vas avoir à manger le soir même, quoi.
Mais en même temps, c'est fou de pas savoir ce que tu vas avoir à manger le soir même. Et aussi, ça a instauré vraiment un moment de partage. C'est-à-dire que la règle principale, c'était que comme c'était gratuit, on partageait avec tout le monde. C'était pas c'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est pour moi. Et du coup, on y allait, 5-6. Et on faisait à manger pour tout. On était 14 dans ma coloc et on faisait à manger pour tout le monde.
Attends, vous étiez 14 dans ta coloc? Voilà.
Ouais.
Ça, c'est une autre histoire.
C'est une résidence étudiante, en fait.
Ouais, en gros, on a chacun notre chambre et on partage cuisine et salon. Okay.
Est-ce que tu sais si ça perdure depuis que tu es partie?
Ça s'est affaissé. Enfin, j'ai des copines qui continuent à le faire un peu parce qu'elles restaient pendant un an. Mais je sens que ça n'a pas accroché pour les nouveaux. Parce qu'en fait, quand tu dis à quelqu'un que tu vas chercher de la nourriture dans les poubelles, il est « Ah, mais c'est dégueulasse, tu manges des trucs qui sont dans les poubelles. » Et en fait, tu lui expliques pendant 5 minutes que en fait, c'est extraordinaire et tu le convaincs en 5 minutes. Mais c'est vrai qu'au premier abord, les gens n'ont pas du tout envie de le faire et ils sont là « Ah ouais, non, je ne ferai jamais ça de ma vie. »
Et en France, tu t'es renseigné s'il y avait des initiatives dans ce genre-là? Parce que même si c'est interdit par la loi, il doit y avoir des choses qui sont un petit peu arrangées ou contre vous, en tout cas dans ce sens-là. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu t'es renseigné depuis?
Franchement, je ne sais pas du tout. J'avais fait quelques recherches, j'avais rien trouvé, mais c'était pas des recherches très poussées. J'avais vu une vidéo d'un mec qui avait testé dans un Carrefour en France. Et c'était hallucinant parce qu'il avait été dans un très très grand supermarché. Et c'est-à-dire que c'était pas la petite benne du Danemark, c'était qu'il y avait genre une douzaine de bennes et que chaque benne avait un type d'aliment. Il y avait une benne uniquement pour les légumes, une pour la viande et c'était rempli à ras bord.
Mais je pense qu'il y a des... c'est pas le même concept, mais il y a des applications qui se sont mises en place, j'ai pas du tout le nom en tête maintenant, mais pour récupérer justement en fait ces invendus et les redistribuer soit aux personnes qui sont dans le besoin, soit mais là j'ai pas
mais maintenant il y a aussi j'ai vu ça il y a pas très longtemps dans un supermarché un coin bonnes affaires entre guillemets où ils mettent tout à 1 euro et c'est des trucs périmés depuis un jour deux jours ils mettent tout à 1 euro.
Mais justement j'ai lu un article comme quoi la France on était un exemple en matière de
Gâchis ?
De gâchis, ouais. Enfin, non, justement, on était un exemple...
De lutte contre le gâchis.
Ah bon ? Contre le gâchis. Parce
que... Il y a des législations qui sont passées très récemment, en fait.
J'étais choquée, genre, quoi ? Et en fait, apparemment, si, on est un exemple pour les autres pays. Parce que justement, on vend des trucs qui sont périmés. Alors que, par exemple, au Danemark, dans le supermarché...
Tu trouves pas ça dans partout, tous les supermarchés, clairement. Il y en a qui... Ta salade, elle fait un tout petit peu la gueule, c'est poubelle immédiatement.
Mais j'avais une question, je l'ai perdue. Ah si, Jade sur le chat disait, bon alors disait, elle me fait rire, elle dit vie de hippie, 14 dans une coloc, friganisme, partage, c'est juste les années 60. Et elle dit, est-ce que t'as une idée de combien t'as économisé en faisant ça?
Franchement, j'en ai aucune idée, mais...
Mais est-ce que du coup, ça te permettait de, genre, entre guillemets, sortir plus, etc. Ouais, t'as commencé, est-ce que t'as commencé pile quand t'es arrivée au Danemark et du coup,
non,
tu te rends pas compte?
On a commencé fin septembre. Donc on a vécu trois mois et demi comme ça.
Ouais.
Mais je pense que c'était à peu près 300 euros par mois. Enfin...
Du coup, elle allait au resto et elle laissait plein de trucs dans son assiette.
Genre, des fois, en fait, on faisait le jeu de récupérer des trucs et ensuite, on allait voir dans le supermarché combien ça coûtait. Et des fois, on trouvait des blocs de fromage et ils coûtaient 15 euros le bloc. C'était hallucinant.
Waouh.
Et du coup, on a eu quelques trouvailles un peu sympas. Genre, un jour, on a trouvé un pack de 20 bières.
Interesting.
Super. Et bien sûr, c'était périmé genre un an et demi après. Donc, c'était des bières. Et alors, la trouvaille la plus incroyable que j'ai faite, un soir, j'y vais toute seule. Je me dis, allez, aventurière, tu tentes. Et en fait, j'ouvre la poubelle et il y avait deux sacs à l'intérieur. Et comme j'étais toute seule, je voulais pas me tenter à regarder ce qu'il y avait dans chaque sac. Je me dis, je les prends et on verra à la coloc ce qu'il y a dedans. Donc, j'ouvre le premier et il était rempli de chocolat. Donc, il y avait... Franchement, une trentaine de sachets de chocolat. Donc, bien sûr, rien n'était périmé. Et c'était un peu Noël à la coloc. Genre, j'ai tout vidé sur la table. Genre, servez-vous. Et c'était ouf. Genre, pourquoi est-ce qu'ils ont jeté ça?
Et vous avez fait une crise de foi après. Bravo.
Genre, aucune idée. Et dans l'autre sac, il y avait tous les ingrédients pour faire des pizzas. Donc, pâte à pizza, sauce tomate, mozzarella, chorizo, gruyère, enfin...
C'était quelqu'un qui était amoureux de toi, qui t'avait laissé les sacs, et t'avais pas vu qu'il y avait des mots à l'intérieur.
Peut-être,
en fait.
Ouais. Et c'était juste incroyable. Et on s'est tous dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai une de mes copines qui avait travaillé dans un supermarché et qui m'avait dit que dans son supermarché, en fait, dès que des produits donc, étaient sortis des frigos, donc tu en parlais tout à l'heure, la chaîne de froid, dès que la chaîne de froid est cassée, ils sont obligés de tout jeter. Et donc, en fait, elle me disait, c'est possible que ça soit quelqu'un qui ait fait ses courses. Et en fait, il a juste oublié son sac avec toutes ses affaires à la caisse. Et en fait, ils peuvent pas les remettre en rayon parce que c'est interdit. Et du coup, ils sont obligés de tout jeter alors que tout est bon.
Ouais, mais d'ailleurs, ça me faisait penser quand tu disais le chocolat, si ça se trouve, tout simplement, tu as tous les packaging de Noël.
Ouais, c'est ça.
Le 15 janvier, ils dégagent les packaging de Noël. Enfin,
Mais si, pour le coup, ma mère travaille dans la grande distribution et ce genre de truc, ça arrive régulièrement, je pense, en fait, d'après ce que j'avais compris. C'est tout. Les chocolats de Pâques, c'est pareil, en fait, ça dure pas toute l'année. Mais il y en a toujours trop dans les rayons des magasins. Donc, j'arrive pas à me souvenir si ça se jette ou si justement maintenant ils ont mis en place des trucs pour les redistribuer à des associations plutôt que de les jeter. Mais en tout cas, c'est sûr que ça se produit et que ça reste pas... Enfin, on voit pas des magasins, des chocolats de Pâques ou de Noël toute l'année dans les magasins, quoi. Donc ça va bien quelque part.
C'est fou. C'est vraiment ouf. Et c'est marrant, sur le chat, les gens font « Mais qui jette de la bière ?» Et en fait, il y a Jessica qui dit « En tant qu'employée, ça me foutrait vraiment les boules de jeter la nourriture. » Du coup, je me demande s'il y a des employés de supermarché, au moment où c'est « Allez, on fout les poubelles dehors », est-ce qu'ils ont le droit de récupérer des trucs ?»
Justement, j'ai la même copine qui avait travaillé dans un supermarché. Elle travaillait en Belgique. Et elle m'expliquait que dans le supermarché où elle travaillait, en fait, tout était compté avant qu'ils jettent. Et du coup, en fait, c'était interdit de récupérer. Et je sais que même en France, on peut se faire renvoyer si on récupère la nourriture. C'est totalement illégal.
En France, tu te fais renvoyer si tu récupères les tickets avec les réductions. Les tickets de caisse avec les bons de réduction à l'arrière. Donc,
Ah oui.
Vraiment ?
Ok.
Je vous conseille de voir le film La loi du marché.
Stéphane
Brisé,
alors.
Qui parle de ça et qui est basé sur des faits réels, puisque ça arrive assez souvent. On voit souvent des histoires comme ça aux infos où telle caissière s'est fait virer parce que le client a laissé son ticket derrière et a marqué moins 5 euros sur votre prochain achat de bonus. Et j'ai dû dire une marque vraiment de vieille qui n'existe plus. Je pense, j'ai senti le blanc dans vos yeux. Et tu n'as pas le droit de récupérer le ticket avec les bons de réduction.
Ok. C'est ouf. C'est vraiment ouf. En fait, c'est assez étonnant qu'il y ait des lois. Enfin, tu vois, qu'ils sortent des lois pour dire vous n'avez plus le droit de mettre de la javel et ils font des pubs contre le gaspillage alimentaire, mais derrière, tu peux pas. Tu peux pas récupérer la nourriture, quoi. C'est quand même ouf.
Là, c'est fou.
Enfin. C'est vraiment genre le dysfonctionnement du. T'inquiète. Le dysfonctionnement du système, quoi. Genre, il y a un espèce de blanc. Genre, on fait pas ça, mais on fait pas ça non plus. Et du coup, vous gâchez de la nourriture pour rien.
Ouais, c'est ce que tu disais, il y a un espèce de vide.
Oui, une espèce de flou au milieu. Mais bon, moi, j'habite dans un quartier assez populaire. Et effectivement, je vois souvent des gens qui, après que le marché soit vidé, viennent ramasser tous les fruits qui sont tombés, les fruits et légumes qui sont juste en très bon état, mais juste quand les mecs remballent, bah, y a plein de trucs qui tombent. Ouais. Et qui viennent faire le marché après le marché.
Ouais, mais moi, je me souviens, une de mes grandes sœurs, quand elle était à la fac, bah, elle avait pas de thunes pour se payer genre les aliments du marché, etc. Et en fait, ils faisaient les fins de marché pour demander aux gens s'il y a des trucs qu'ils allaient jeter, quoi qu'il arrive. Et en fait, souvent, les marchands, après, j'en sais rien, peut-être pas tous, mais il y en a qui donnent volontiers, en fait, plutôt que ça se périme, que ça se perde, le donner aux gens qui en ont besoin, tu vois. Ouais. Mais après, je ne sais pas à quel point ça se fait dans tous les marchés, je pense pas, mais tu vois, si tu as des bons rapports avec les gens, ou si, je sais pas, si tu les aides à ranger leur camion, j'en sais rien.
Ouais, de toute façon, de base, je pense qu'en fait, quand tu arrives à la fin du marché, juste avant que les gars remballent, ils font toujours des... Il y a toujours moyen d'avoir des prix qui ne sont pas les mêmes que ceux que tu as quand tu arrives le matin à 8h. Ouais. Et je pense qu'effectivement, s'ils savent qu'ils vont perdre ce qu'ils ont, enfin... À mon avis, on a très peu qui jettent par plaisir ce qu'ils ont produit, tu vois. Ouais. Enfin...
Mais du coup, en fait, ce qui me fascine, c'est ces supermarchés qui jettent autant de tonnes de nourriture. Pourquoi est-ce qu'ils ne les donnent pas à des gens qui en ont besoin ?
Ben, je pense justement que c'est ça, en fait, la loi qui est passée. Et j'arrive, ça m'énerve beaucoup de ne pas réussir à retrouver exactement ce qu'est
cette loi. Il y a un documentaire, d'ailleurs, exactement là-dessus. Hein.
Mais il me semble, je ne sais pas si quelqu'un sait sur le chat.
Je peux chercher, j'ai l'internet.
Il me semble, je suis quasiment sûre qu'on a fait un article dessus sur Mademoiselle. C'est pas moi qui l'ai fait, je ne sais plus qui. Chloé peut-être.
Mais il y a un documentaire qui est sorti sur la grande distribution et sur le gâchis alimentaire justement. Mais pareil, j'ai plus le nom. Un gros documentaire justement qui explique tout ça et qui explique où en sont les lois par rapport à où en sont
parce
les
que
gens.
Je suis sûre qu'il y a un truc qui est passé justement récemment. Je pense que c'est peut-être pour ça, d'accord. Pour je sais pas si c'est pour les obliger ou pour les autoriser.
5 février 2016, la loi a été définitivement adoptée. Un grand pas dans... Alors attends, c'est parce que je suis sur la mise à jour, donc forcément j'ai pas les premiers trucs. C'était une pétition... pour prévenir le gaspillage et... Alors attends... De prévenir tout gaspillage et de distribuer gratuitement des invendus encore consommables malgré le dépassement de date limite conseillée de consommation. Donc ça, c'était en mai 2015. Donc il y avait
Je croyais qu'il y avait un truc encore plus récent. Mais peut-être que
et du coup, c'est passé début 2016.
D'accord.
Okay. Voilà. J'ai pas beaucoup plus d'infos.
Merci, Louise.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Je ne sais pas si c'est ça, en fait, ou si c'est autre chose.
Mais il y a un truc aussi sur les McDo, un truc comme ça, à la fin du service du McDo, parce qu'il y a beaucoup de choses comme... McDo est régi par des lois très, très strictes de sanitaires. Je crois qu'il y a un truc aussi là-dessus, sur la fin, en fin de service, est-ce que tu as le droit ou pas le droit sur tous les invendus du McDo, il y a aussi eu des polémiques là-dessus. Voilà, je dis que des informations à moitié. Je vais donner que des mises informations.
C'est ça, on donne des... Peut-être
il y a un docu. Voilà, je m'arrête là. Il y a une loi... Voilà, c'est fini.
N'hésite mais pas on a le témoignage de première main de Cécile.
Voilà, et on a également un témoignage de... Voilà. N'hésitez pas.
Alors, j'essaie de regarder si sur le chat ils ont des réponses. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le site de legifrance.gouv.fr avec la loi sur le gaspillage alimentaire.
Ah, bah voilà. Alors là, va décrypter une loi en live, en direct.
Lis tous les 62 articles.
Ouais, non, mais c'est ça, par contre. Donc, alors, dans la loi, il y a donc un premier article, je vais pas vous lire tout, mais il y a, donc ça prévient le gaspillage alimentaire en utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation. Voilà. Valorisation destinée à l'alimentation animale et utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique.
Bonne idée. Ah, c'est pas bête.
Sauf qu'il y a le texte et puis il y a la réalité où tu as des supermarchés qui n'ont pas envie d'avoir des gens qui débarquent à la fin du service. Ouais. On s'entend. Je pense que dans le réel, c'est plus compliqué encore.
Ouais. Il y avait beaucoup de... J'avais lu sur Internet beaucoup d'employés de supermarchés qui trouvaient que c'était de la provocation, en fait, de récupérer de la nourriture qu'eux, ils jetaient, alors qu'une heure avant, des gens étaient venus l'acheter, en fait. Ils pensaient qu'on était des profiteurs du système.
Ouais. Je suis pas sûre que...
Oui, si le système est déconnant, en même temps, ouais, au bout d'un moment...
Et encore, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire ça, et je pense que tu le fais... Si t'as une nécessité, je suis pas sûre que ce soit non plus un kiff de ouf d'attendre que ce soit fermé, d'avoir la trouille au bide que quelqu'un te chope, d'aller chercher... Enfin, c'est quand même une démarche, c'est pas non plus un kiff absolu, quoi. Moi, je sais que si j'ai le pouvoir d'achat, d'aller au supermarché, je vais continuer à acheter ma nourriture, et voilà. Mais d'ailleurs, il y a un truc tout... Enfin, c'est tout bête, hein, mais maintenant qu'il y a les bornes partout dans les McDo, dans les fast-food, etc., Je trouve qu'on a un peu dématérialisé le fait d'acheter un truc. Donc moi, je sais que quand je commande à la borne, je commande toujours un sandwich en plus que je file. Il y a toujours des gens devant les fast-food. Ouais. Et en fait, tu commandes à la borne, ça te coûte 2 balles de plus. Enfin, je dis, tu t'en rends pas compte parce que je suis pas à 2 euros près. Et il y a des gens qui sont à 2 euros près, je m'en doute bien. Mais globalement, je pense que c'est un truc aussi qu'on peut avoir d'automatisme parce qu'il y a un truc où les bornes sont plus proches des portes. Tout bêtement. Ouais. Enfin, il y a une espèce de truc de... Tu viens de rentrer, t'as vu quelqu'un devant, tu sais que tu vas prendre ton truc de surplus, qu'en ressortant, tu peux le donner. Enfin, je pense que c'est un truc que, si t'y penses, ça peut être une petite chose qu'on peut faire plus naturellement. Enfin, en tout cas, moi, je sais que depuis les bornes, je fais ça plus naturellement parce que je suis moins éloignée de la personne que j'ai croisée en rentrant que quand t'es arrivée à la caisse, t'as déjà oublié alors que la borne est entre deux.
C'est super cool.
Ouais. Mais moi, ça m'arrive aussi. Enfin, après, c'est pas... C'est plus le même sujet, mais c'est vrai que moi aussi, ça m'arrive des fois de rentrer dans un magasin et me dire je vais prendre genre une baguette ou un sandwich ou un tout dans le genre
pour la personne qui est à la porte.
Ouais. Bon, après, une fois, il y a une personne, un SDF, qui m'a demandé. Alors, du coup, j'ai dit oui. Et j'y vais et j'ai vraiment pris plusieurs trucs. Et vraiment, quand je suis ressortie, il était plus là. Oh, et du coup, j'ai vraiment jeté les trucs. C'était horrible. Quoi. J'ai vraiment cherché. J'étais voilà. Donc là, c'est encore pire.
Mais c'est vrai que le dumpster diving, je l'ai vécu à mon échelle, mais en ayant du recul sur cette expérience, je me suis dit que si je devais le revivre, j'en ferais partager des gens qui en ont beaucoup plus besoin que moi, parce que nous, on le faisait, on en avait pas... Enfin, on n'était pas malheureux. Quoi.
Vous n'étiez pas à la rue.
Oui, on n'était pas à la rue, et on n'était pas les personnes qui en avaient le plus besoin sur Terre.
Mais j'ai bien peur, malheureusement, que les gens qui en ont vraiment besoin ne fassent pas non plus cette démarche.
Non.
Parce que je pense que c'est compliqué aussi en termes de... Parce que toi, tu peux le faire en disant « je suis jeune ».
Les produits, en plus. Enfin, je veux dire, tu trouves pas, j'imagine, que des trucs cuisinés, donc il faut aussi avoir les moyens de cuisiner.
Et puis, j'imagine un problème aussi de... C'est-à-dire que toi, t'es jeune, t'es Erasmus, et tu te dis « c'est une expérience de vie, c'est une aventure ». Je pense que pour des gens qui sont vraiment en détresse, la démarche est moins bobo. Enfin, c'est pas du tout un jugement de valeur.
Mais je pense que c'est très militant, en fait, presque, ce que t'as fait. C'est pas effectivement, je le fais forcément juste parce que j'en ai besoin. Voilà, j'ai l'impression, dans ce que tu décris, qu'il y avait vraiment la démarche militante de, en fait, bon, déjà, c'est un peu utile pour moi, mais surtout, je vais éviter ce gaspillage, quoi.
Mais sauf que les gens, c'est ce que je... Enfin, je nuancer mon propos, c'est que les gens vraiment en nécessité vont... C'est pas une démarche militante pour eux, donc la démarche est sûrement plus complexe.
C'est intéressant. En fait, sur le chat, il y a Arnaud qui dit qu'en France, il y a pas mal de frigan. Et du coup, Jade tout à l'heure disait que si tu cherches un peu sur Facebook, il y a des groupes de gens frigan, je pense certainement par ville, qui doivent se retrouver justement pour échanger là-dessus. Et sur Facebook, il y a Céline qui dit un truc assez intéressant. Elle dit en fait on donne pas pour stimuler la consommation parce que si on donne on perd des consommateurs potentiels. Et c'est juste le truc principal de notre système économique. Donc,
surtout que je suis pas sûre que ce soit vrai, parce que, comme je disais,
oui, non, mais c'est ça.
Si t'as le pouvoir d'achat, tu te fais pas chier à aller à la sortie, à attendre l'heure, à pas savoir ce que tu vas manger. Enfin, je suis même pas sûre que ça enlève vraiment des consommateurs, en vrai.
Bah oui. Ouais. Enfin, moi, je réfléchis à totalement une autre échelle, mais depuis que je suis à Paris, j'entends beaucoup de gens, genre, en fin de soirée, dire « on prend Uber », et je suis là « non, genre, je vais pas payer 10 euros pour prendre un Uber, je vais prendre le métro ». Parce que j'ai une carte de métro que j'ai payée cher. Et,
tu oui, vois ou le Vélib quand les métros sont finis, oui, voilà. Ou ce genre de truc.
Et du coup, c'est assez marrant, en fait, certains automatismes que tu as dans des grandes villes, ou parce que en fait, c'est aussi possible que je sois avec des gens qui sont plus âgés que moi, donc qui ont plus de sous, et qui du coup s'en foutent de payer 10 euros pour rentrer d'une soirée, parce qu'au moins ils savent qu'en 10 minutes ils sont chez eux. Et moi je suis là, non, je vais prendre le métro. Et du coup, je pense que c'est totalement, ça reflète vraiment ce que tu es en train de dire, Aude, sur les personnes, entre le pouvoir d'achat. En fait, une fois que tu l'as, tu l'utilises, quoi.
Bah oui.
Donc voilà.
Je sais qu'il y a des personnes qui en ont fait aussi leur mode de vie, genre total. Il y a une Américaine, je crois, avec son copain, il ne mange que des choses qu'il trouve dans les poubelles. Uniquement. Et il y a aussi un mec qui vit uniquement de ça, et il est très connu. Je crois que c'est un acteur, mais je pense que je dis n'importe quoi, je suis pas sûre, mais c'est un mec assez important, il a écrit un livre, tout ça.
T'as pas des noms ?
Pas du tout.
Et une nationalité.
je crois qu'il est américain, mais je suis pas sûre.
En Australie, il y a aussi le magazine pour lequel, l'autre truc pour lequel j'écris, une association qui s'appelle crossworlds.fr, il y a, en fait, tous les mois, on choisit un thème et on a des correspondants dans plein de pays qui écrivent sur ce thème-là depuis le pays où ils sont. Et donc, il y a quelques années, il y a une correspondante qui était en Australie et le thème de ce mois-ci était la poubelle. Et en fait, elle avait fait un reportage justement sur un mec qui vivait de ça. Et c'est un reportage vidéo, je pense qu'on peut le trouver sur le site. Ça s'appelle crossworlds.fr et tu vas sur le regard poubelle sur la catégorie Australie, okay. Ça se trouve assez facilement normalement, et le mec vivait vraiment de ça, enfin, en fait elle a fait tout un reportage vidéo sur ça, où elle le suit et elle le voit aller chercher, et lui pareil, c'est son mode de vie, quoi.
Je cherche, je suis...
Mais donc je pense que ça peut être des expériences de vie temporaires. Mais je sais pas, est-ce que si c'était légal en France, tu continuerais à le faire ou pas ?
Je me suis posé la question, et déjà je vis avec mes parents. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais...
Bah, t'aurais pu leur rapporter les courses du coup.
C'est vrai que c'est devenu un peu un running gag. Genre dès qu'on croisait une poubelle, ils me disaient « Ah c'est bon, c'est ton restaurant. Voilà. »
Mais c'est marrant, tes parents ils l'ont pris comment ?
Ils l'ont super bien pris. Ma mère, elle était... Au début, elle était un peu « qu'est-ce que tu fais ?» Et puis après, elle était plutôt fière de moi. Mais je sais que j'ai une autre copine qui l'a dit à ses parents, et ses parents lui ont donné des sous en mode « mange ma fille, ne va pas te nourrir dans les poubelles. »
Ok. Ouais, est-ce qu'elle avait expliqué le processus derrière ou...
Ouais, mais je pense qu'ils n'avaient pas bien capté le concept.
D'accord. Ah, c'est marrant. Tiens, plus de sous. Non, je viens de vous dire que je ne voulais pas les dépenser, justement. Ok, trop cool. En tout cas, c'est genre les gens réagissent hyper bien sur le chat. Ils disent que tu redonnes un peu d'espoir en l'humanité. Donc, c'est très chou. Voilà, tu te débrouilles très bien pour ton premier live.
Bravo.
On va faire une pause musicale parce qu'il est déjà 22h et on revient après pour last but not least, puisque c'est Aude qui va vous parler du truc qu'elle aime beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qu'on écoute pour la pause ? On écoute Holly Cook avec le morceau Tiger Balm. Balm, Balm, je ne sais pas comment on dit.
No tiger balm on my lonely soul. I was so bad to leave for a bit of joy. You gave me stars, I leave you the storm. Never mind the distance, I am running after you, I am running after you. No matter today, I think of you anyway. My nights are empty without you. And I walk down the hill to the place we used to believe. my luck is gone. Gone with your pretty face. I talk about you to people like me. Never mind the story, I am running after you, running, running after you. No matter from today, I think of you anyway. My nights are empty without you. And I walk down the hill to the place we used to believe in everlasting love. Where are you?
J'avais même pas vu que c'était la fin, dis donc. Écoutez, retourne en live. Où est la caméra? Elle est là. Ah, on est là! De retour! Et pendant la pause, donc vous êtes toujours dans C'est ça qu'on aime, je répète au cas où. Pendant la pause, Cécile nous disait qu'elle s'était fait tatouer, pas tâter.
C'est le sujet d'un autre podcast.
C'est ça. Elle s'est fait tatouer une poubelle sur le bras. Est-ce que tu peux la montrer à la caméra?
Alors, comment je me mets?
Bah, ouais, comme ça. On la voit. Ouais, on la voit.
On la voit bien.
Plutôt pas mal, tu peux te rapprocher si tu veux, tu peux enlever ton casque et même okay. Venir plus près.
Montrer son sac congélation à la caméra.
Oui parce que donc pour les gens qui nous écoutent en audio, Cécile s'est fait tatouer un sac poubelle derrière le bras, mais qui ressemble pas vraiment à un sac poubelle, en fait c'est juste la forme du sac poubelle. Et,
oui, ça va.
Et du coup il y a un flocon dedans, donc voilà, les gens voilà. Te
flocon
disent
parce que froid, parce que Danemark.
Exactement.
Voilà,
c'est beau.
Comme quoi c'est assez donc, ludique comme activité de deviner les tatouages des gens.
Les gens me demandent tout le temps ce que c'est. Alors que ça se voit un petit peu. Bon, ça se voit pas que c'est une poubelle, mais que
non,
c'est
mais
un petit sac.
Non, mais faut avoir l'explication. C'est
oui, bien. Oui. Et donc, on me dit soit que c'est un sac congélation, soit que c'est la hotte du Père Noël.
Ah oui, ça marche bien.
C'est très mignon, donc des fois, je dis oui aussi.
Ah, c'est bien, la hotte du Père Noël.
Ouais.
Est-ce que les enfants, ils te demandent, et du coup, t'es là, ouais, parce que c'est mon gars sûr. Du coup, si t'es pas sympa avec moi, je vais te dire, je t'efface direct. on enchaîne avec Aude.
Oui.
De quoi voulais-tu nous parler?
Alors, déjà, moi, je voulais vous parler de plein de choses, donc je suis très frustrée parce que Louise, avant le podcast, m'a dit. Alors, parce que Louise m'envoie plein de messages. Tu sais de quoi tu vas parler? Je dis, je ne sais pas. Et ce matin, j'ai vraiment envie de parler de 5 trucs.
Voilà.
Et Louise m'a dit, non, tu dois en prendre qu'un. Donc, je suis très frustrée, je vais en prendre qu'un, mais je vais en prendre un important. Parce que, donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube en janvier. Donc, Virago, je fais le portrait de femmes qui ont changé le monde à leur échelle. Et de fait, je m'inspire de beaucoup, beaucoup de choses. On m'envoie beaucoup de références, de livres, de choses à écouter, à voir, à regarder. Donc je m'imprègne énormément de femmes extraordinaires. Et il se trouve que a démarré il y a quelques semaines un podcast qui s'appelle La Poudre, qui est produit par Nouvelles Écoutes et qui est tenu, qui a à sa tête Lorraine Bastide, qui est une journaliste, qui était grand reporter, qui a été rédactrice en chef de Elle, qui est également chroniqueuse au Grand Journal l'an dernier sous la houlette de Maïtena, et qui a lancé ce podcast pour donner la parole aux femmes. Donc une heure et demie avec elle, sans leur couper la parole. Donc elle a quelques questions de référence et elle laisse ces femmes parler, et c'est des femmes toutes très inspirantes. Elle a reçu des femmes comme Ouda Beniamina, comme Garance Doré, comme Pénélope Bagieux.
Pénélope Bagieux, ouais.
Voilà, et donc c'est une vraie conversation entre femmes. Et moi, ce qui m'intrigue énormément, au-delà du fait que Lorraine Bastide est une journaliste remarquable et qui a une voix
formidable, parfaite pour la radio,
absolument envoûtante. C'est-à-dire que on passe vraiment un moment délicat. En fait, voilà, je pense que c'est le mot, c'est délicat. Et moi, je suis une dingue de podcasts. J'écoute énormément de podcasts et je fais beaucoup de voitures. Donc, c'est mon moment à moi, c'est ma bulle. Je ferme les portes, je mets tout, hop, clac, et je mets mon petit moment podcast. Et effectivement, au-delà du fait qu'elle a une voix absolument extraordinaire
et que sa douceur et son intelligence portent ses invités, elle leur renvoie à des questions vraiment fondamentales sur ce qu'est être une femme aujourd'hui, ce qu'est être une créatrice, le parcours de ces femmes-là. Donc moi, ça me parle parce que ça fait complètement écho à mon projet, si ce n'est qu'elle reçoit des femmes qui
sont... maintenant.
De maintenant. Alors moi aussi, je ne fais pas que des femmes mortes, parce qu'on me le reproche par contre. Oui, tu fais que des mortes. Je dis non. Dans l'épisode 2, Vic 10 se porte très bien encore aujourd'hui. Voilà, je ne fais pas que des femmes mortes, mais c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile pour moi de parler d'un parcours entier. Dans ma prochaine session, je vais parler d'une fille qui a 35 ans. Je me dis, ah ouais, j'aurais bien voulu la garder, parce que ça se trouve, elle va faire encore des choses extraordinaires. Il faudra que je fasse un tome 2. Voilà. Donc là.
Ah, mais ça donne l'occasion de poursuivre l'histoire.
Absolument, absolument. Mais ou alors, je me dis le truc inverse. Je me dis, ça se trouve, elle va verser dans un truc terrible. Après, elle va tuer 15 000 personnes et du coup, je serais dégoûtée d'avoir fait un épisode sur elle. Bon, voilà. En attendant, du coup, Lorraine reçoit des gens, des femmes d'aujourd'hui qui sont des nanas qui sont très inspirantes, qui sont des créatrices, qui sont des fonceuses, qui sont des bosseuses, qui ont des parcours tout plus différents les uns que les autres. Et par ailleurs, en plus de ces épisodes qu'on peut retrouver, donc ça s'appelle La Poudre, qu'on peut retrouver en replay. Je sais pas si on dit replay pour un podcast. Non, juste en podcast.
Ouais,
en fait.
Podcast.
Ouais. Elle a sorti un truc qui était très touchant le 8 mars. En fait, elle a sorti un documentaire audio sur la Women's March. Mmh. Pardon, ça y est, j'ai le nez qui se rebouche. Donc du coup, ça fait la Women's March. Sur la Women's March. Voilà. Non, je vais arrêter de le dire.
Prendre deux minutes pour te moucher, tu peux.
Non, je vais tenir le coup. Lorraine Bastide est partie à Washington. Quand il y a eu la marche, en fait, le lendemain de l'élection de Trump. Et donc, elle est allée pendant plusieurs jours à Washington interviewer les femmes dans la rue, dans les cafés. Elle a rencontré des femmes extraordinaires dont certaines sont à l'initiative du mouvement. Et elle fait un documentaire audio de 2 heures où on plonge au cœur de cette marche, au cœur de l'Amérique qui manifeste,
au cœur de
et ça file des frissons parce qu'il y a des femmes qui chantent, qui crient, qui scandent, il y a un orchestre à un moment donné avec des tam-tams et d'un coup ben on est pris, on est vraiment en train de marcher avec ces femmes-là et puis en plus elle avec sa voix qui est tout droit sortie de vraiment un conte de fées, elle jalonne tout le récit de son documentaire sur là on ne pouvait plus avancer dans la marche et donc du coup elle nous emmène avec elle dans le voyage.
Elle fait une espèce de voix off.
Elle
après
fait une espèce de voix off en plus de toutes ces interviews qu'elle fait avec ces femmes qu'elle a fait doubler en plus donc ça peut s'écouter en français et en anglais et voilà, et c'est extraordinaire parce qu'elle nous fait comprendre un peu. Elle arrive à la marche en taxi avec une chauffeuse de taxi qui dit mais moi je comprends pas pourquoi les gens manifestent et en fait elle c'est toute sa démarche. Elle a pris l'avion de France pour aller à Washington manifester contre l'investiture de Donald Trump. Et voilà, il y a beaucoup de consonnes qui ne passent plus avec ce nez. je m'en excuse. Voilà, et c'est vraiment un moment particulier, intime. Elle pose ces questions, moi, qui me fascinent parce que je trouve ça fascinant, en fait, d'avoir des réponses à ces questions-là. Mais elle demande toujours quel est votre rapport à votre utérus.
Ça, c'est fou.
C'est fou, parce que...
C'est vraiment assez génial parce que, en fait, moi, j'ai écouté, je crois que je suis au 4e ou au 5e épisode. Je crois qu'il y en a 8, quelque chose comme ça. Et la première fois qu'elle la pose, elle est là, c'est une question que je vais poser tout le temps, mais t'es la première à qui je la pose, et je sais plus qui c'est la première personne qu'elle
invite. Je sais plus, ça a été longtemps maintenant.
Je crois que c'est Rebecca Zlotowski.
Oh, c'est possible, ouais.
Une réalisatrice que je ne connaissais pas du tout. Alors vraiment,
le premier c'est Rebecca Zlotowski. Okay.
Et donc elle lui pose la question un peu en se marrant, genre c'est une question que je vais poser à tout le monde, mais à brûle pour point comme ça c'est un peu chelou. Donc toute elle est là, mon utérus. Et c'est vraiment assez intéressant en fait parce que toutes les réponses sont différentes.
Totalement différentes.
Avec une question, t'as vraiment 1000 possibilités et c'est ça qui est ouf. C'est que à chaque fois, donc moi je me suis mise à écouter ça dans le train la dernière fois parce que j'en avais marre d'écouter les albums que j'avais sur mon portable. J'avais commencé à écouter une première fois, mais genre 10 minutes. Et en fait, à chaque fois, elle commence par l'enfance des personnes qu'elle interviewe, de comment est-ce qu'on s'adresse à elles quand elles étaient petites, où est-ce qu'elles ont grandi, etc.
De comment elles deviennent femmes aussi, ça c'est très intéressant, parce que je trouve que quand on écoute, en fait, on se pose les questions à nous-mêmes, en fait, en écoutant.
Ouais.
On se les pose, donc elle dit, est-ce que tu es devenue femme, est-ce que tu l'as toujours été ? Il y a quelques questions qui sont toujours les mêmes, en fait, qui jalonnent le propos.
Et du coup, vraiment, moi, la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, ah, elle parle, enfin, genre, la meuf, elle parle de son enfance dans le 13e, blablabla, puis tu sais, j'étais un peu là, genre... En fait, ça me parle. Enfin, vraiment, j'avais l'impression que c'était parisien, et du coup, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, j'ai arrêté au bout de 10 minutes. Et après, j'ai réécouté. Et en fait, à un moment donné, donc Rebecca Zlotowski, elle parle des actrices qu'elle a mises en scène en film, et notamment de Léa Seydoux et de la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, comment elle s'appelle ?
Lily Rose Depp.
Et donc elle dit que c'était très différent parce qu'il y a eu des scènes où les filles sont en pleine position de leur corps, etc. Et que quand t'es avec une jeune femme qui a des parents derrière elle qui sont genre monumentaux et qu'en plus t'es déjà mise en avant, enfin il y avait un truc de la jeunesse, l'innocence qu'elle voulait conserver. Elle avait pas du tout le même rapport avec Léa Seydoux qui était déjà une actrice qui avait fait plusieurs films, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. En tant que femme, de voir comment elle voit les autres femmes et comment elle les aborde, etc. Et j'ai trouvé ça assez passionnant.
Et même dans le choix des invités, parce que, par exemple, il y a Ina Modja qui parle de son excision.
C'est hyper intéressant.
Il y a des profils très différents et en fait, c'est très passionnant, même si au premier abord, tu te dis, je sais pas si cette personne-là va vraiment m'intéresser. En fait, il en découle des vraies réflexions et un vrai engagement. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est engagé et en même temps, c'est juste des parcours qu'on a envie de, dans lesquels on a vraiment envie de se plonger. Et alors typiquement, bon ça c'est pour l'anecdote perso, mais elle a reçu donc Pénélope Bagieu pour parler des culottés. Et moi c'est vrai que depuis que j'ai lancé mon projet, on me dit toujours ah oui, il faut que tu fasses un truc avec Pénélope Bagieu. J'ai plein d'amis en commun avec Pénélope Bagieu, mais je ne connais pas Pénélope Bagieu. Et du coup, en fait, je me dis toujours, bon, il faudrait que je la contacte, parce que ça serait bien au moins que je lui présente mon projet, et que voilà, et que je lui dise que j'aime beaucoup son travail. Et en fait, depuis que j'ai écouté La Poudre avec Pénélope Bagieu, j'ose plus. J'ai dit, oh là là, elle a dit tellement de choses bien, et tout ça, et puis oh là là, je sais pas. Donc voilà, donc ça a repoussé un petit peu mon... Ça a remonté mon niveau de toute petite personne, de mon sentiment de toute petite personne, et je me suis dit
j'espère que tu vas le dépasser, parce que ça
il faut que je le dépasse.
Ça me fait rêver, hein, une collaboration entre OGG et Pénélope Bagieu.
Le truc c'est que j'ai vraiment je suis en possession de son email, et c'est horrible parce que j'ai vraiment un ami qui lui a demandé est-ce que Aude peut te contacter, et donc elle a dit oui, j'ai son email, et tous les jours, je me dis, faut vraiment que je lui écrive.
Écoute, je lui envoie le podcast et je le garde.
Peut-être qu'elle me regarde.
La honte. Non, mais c'est vrai que, en plus, parce qu'en fait, c'est le problème, c'est que c'est bête parce qu'on a des démarches. J'allais partir dans un truc.
Si, vas-y.
C'est pas grave. Je dis, tu me dis quand je parle trop parce qu'à un moment donné, tu vas brancher sur le sujet. Même si j'ai les consonnes en moins, je vais quand même y aller. Le truc qui est tout bête avec Pénélope Bagieu, c'est que moi je ne connaissais pas du tout. Enfin, je la connaissais de nom. Je savais qu'elle était dessinatrice. Je connaissais de nom. Et quand j'ai lancé Virago, quand j'ai tourné Virago, j'ai tourné ça en octobre. Et parce que c'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête, j'ai tourné ça en octobre, juste avant de me faire hospitaliser. Et parce que j'avais peur en fait que mon hospitalisation me mette trop longtemps out, et je me disais il faut que j'ai quelque chose qui sorte pendant que moi, je suis enfermée. Voilà. En fait, finalement, ça a duré très peu de temps et tout s'est bien passé. Mais à l'hôpital, on m'a apporté les culottés de Pénélope Bagieu qui venaient de sortir. C'est-à-dire que c'était vraiment... je n'étais pas au courant de ce projet. Je ne connaissais pas les culottés. Je ne savais pas que c'était une rubrique, dans le monde. Je ne savais pas du tout. Et on m'apporte ça vraiment pendant que je suis à l'hosto. Et je me suis dit, c'est génial parce que j'étais pas sûre de ce que j'étais en train de faire, et en fait je me dis j'aurais pu avoir le réflexe de me dire oh zut, ça a déjà été fait, et en fait je me suis dit non, parce que déjà le média est pas du tout le même et c'est pas la même façon de le traiter. Oui. Et je me suis dit au contraire, ça veut dire que c'est important et qu'en fait, il faut qu'on soit de plus en plus à le faire.
Ça veut dire qu'il y a une demande et que nous, on est à la recherche de personnes inspirantes. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose que ce qu'on retrouve dans la poudre.
Absolument.
En fait, c'est des parcours de femmes inspirantes. C'est ce dont on a besoin.
Enfin, et en fait, on se rend compte, et c'est là où moi, je suis contente de ne pas donner de l'eau au moulin des gens qui pourraient dire bah, au bout de trois femmes, t'as fini, t'as fait le tour. Non, parce que je m'attelle à ne prendre aucune femme que fait Pénélope Bagieu dans, ses, dans les culottés. C'est-à-dire que je les ai, mon petit fichier Excel, en fait, j'ai mis tous les les personnages de Pénélope avec marqué culotté, donc avec une espèce de truc de en gris, genre ne fais pas la même qu'elle, même si je le ferais pas pareil.
Il me semble que Pénélope, elle prend toutes les meufs qu'elle prend, c'est des cratères de Vénus, si je ne me trompe pas.
Ah oui, il y avait un truc comme ça.
Alors je sais pas d'où je tiens cette information, peut-être qu'elle.
Non, mais j'ai entendu un truc comme ça.
Mais il me semble que c'est ça, et que du coup, quoi qu'il arrive, si tu prends aucun des cratères de Vénus, normalement...
Ouais, après, comme moi, mes recherches se font de façon complètement décousue et que j'ai plein de choses, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, du coup, j'ai
tu vérifies, quoi.
De la même façon que Marion Seclin fait les scienceuses sur la chaîne String Theory, moi, j'essaye de pas prendre... pour le coup, c'était plus facile pour moi d'appeler Marion et lui dire... donne-moi le nom de toutes les nanas que t'as traitées, comme ça je les traite pas. Ouais. Enfin, voilà. Donc j'essaye de voilà. Et je me dis, donc la corrélation entre ce que j'essaye de faire avec Virago, ce que Pénélope Bagieu fait et la poudre, je pense qu'on a un bon brassage de meufs chambées et mais complètement badass.
C'est ça qui est intéressant. Là, moi, le dernier épisode que j'ai commencé à écouter, je crois que c'est avec Ouda Benyamina.
Qui est la réalisatrice de Divine.
C'est la réalisatrice de Divine. Et donc, elle a gagné la Palme d'Or, c'est ça ?
Oui.
Ouais.
La Palme d'Or, le premier film.
Oui, c'est ça. La Palme d'Or du premier film, voilà. C'est ça. Voilà. Je vais y arriver. Et à un moment donné, donc, Lorraine Bastide lui dit, quand j'ai entendu ton discours quand t'as gagné ton prix, c'était des femmes. Enfin, alors, j'ai pas vu le discours en question, mais elle a l'air de lui dire, c'est hyper féministe, etc. Et Ouda Benyamina, elle dit, oui. Je suis persuadée que le 2017 sera, de manière générale, le 21e siècle sera féminin. Et en fait...
Je viens d'avoir un frisson quand t'as dit ça.
C'est
beau. Parce que je crois aussi.
Ouais. C'est vraiment ce qu'elle dit, hein, c'est du mot pour mot. Le 21e siècle sera féminin. Et en fait, je pense que plus on s'en rend compte et plus nous-mêmes on prend conscience... Enfin, tu vois, genre, c'est con, mais le jour où on a fait le 8 mars et on invite plein de meufs à parler de ce qu'elles font dans leur vie et à quel point c'est cool de faire des projets et... de monter ces trucs et d'arrêter d'avoir peur et de se mettre des limites à soi-même, je me dis, ok, j'ai mis ma toute petite pierre à l'édifice, même si, en vrai, il y a pas tant de gens qui vont le voir. Enfin, je suis pas une star internationale, je suis pas Beyoncé, donc enfin tu vois,
tu sais pas. Présage pas de choses que tu ne maîtrises pas.
Et puis c'est des gouttes, en fait. Enfin, je veux dire, c'est des trucs au fur et à mesure, tu vois, enfin... je sais pas pour vous, mais moi, pour faire les trucs que j'ai fait, etc., enfin, j'ai été inspirée, en fait, par des parcours, des gens qui m'ont dit, fais les trucs, démerde-toi, lance-toi, ah, t'as peur, et ben, en fait, c'est pas grave, tu vas rater, et en fait, c'est normal de rater, mais tu vas voir, tu vas recommencer, la prochaine fois, tu rateras un peu mieux, et tu rateras encore, mais ce sera quand même mieux, et
alors, etc. Moi, j'aime pas trop rater, personnellement, mais bon.
mais je veux dire, en fait, tu t'améliores au fur et à mesure, et même si à un moment tu te casses la gueule, et ben en fait la prochaine fois tu réussiras, et c'est en essayant qu'on apprend. Moi, il y a ce discours-là qui m'a beaucoup inspirée, de me dire, en fait, aie pas peur parce que t'as rien à perdre, et au final, si ça se trouve, tu rateras pas, et t'auras tout gagné, en fait.
Et c'est surtout que du coup, je pense que de fait, une fois que tu t'es dit ça, enfin, que ces femmes qui ont tout gagné, donc par exemple toi, tu as tout gagné, puisque tu n'as rien perdu, de fait, leur donner la parole, en fait, juste... il n'y a pas assez, enfin, on ne prend pas assez la parole dans les médias, dans les journalistes, les experts. On est à 3% dans les médias. Enfin, je viens de dire un chiffre au hasard, ne me tombez pas dessus Internet. J'ai dit un pourcentage au hasard, je ne maîtrise pas les chiffres. Mais je sais qu'on est très peu. Et que donner la parole aux femmes, en fait, mais même, il n'y a pas besoin de. Comment dire ?
Et c'est...
Je me confonds toujours à ce truc-là, pardon, mais je me confonds toujours à ce truc-là de en fait, il n'y a pas besoin de forcément d'haranguer et de critiquer, de dire ouais machin nanan, et d'agresser en disant il faut, je sais pas comment exprimer bien ma parole,
fait simplement dire que on est là, et juste le fait d'être là dans le paysage, donner
la parole, en fait,
de normaliser le fait qu'on existe,
c'est déjà, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, juste donner la parole, c'est militant, en fait. C'est tout bête.
Et ce qui est très intéressant, alors je reviens encore à Ouda Benyamina, parce que c'est le dernier épisode de La Poudre que j'ai écouté. Et à un moment donné, elle dit un truc que j'ai trouvé formidable. Elle dit, en fait, c'est pas parce qu'on fera pas mieux que les gars qu'on n'a pas le droit de parler et qu'on n'a pas le droit de faire, en fait. Ouais. Et elle est là, genre, non, on fera vraiment, certes, c'est quasiment sûr qu'on fera pas mieux, mais en fait, on fera pareil et il y a pas, en fait, il y a pas moyen qu'on puisse pas essayer au moins de faire pareil. Mm. Si on nous donne pas la possibilité, on saura pas. Et du coup, je trouvais ça assez ouf qu'elle dise, bah, en fait, on s'en fout, enfin, on veut pas être meilleur ou faire mieux les trucs, on veut juste les faire. Ouais. C'est juste tellement, tellement ouf. Et donc voilà, donc la poudre, vraiment, c'est. Vraiment, j'ai écouté celui avec Garance Doré aussi, ouais. Où j'étais partie faire mes courses et j'étais vraiment à fond dans mon truc. Et c'est vraiment hyper intéressant, en fait. Chaque meuf apporte sa dose de.
Puis je peux pas spoiler, mais il y a des nanas qui arrivent, ça va être assez incroyable.
Il y a combien d'épisodes ouais. là pour l'instant ?
Il y en a 8. Okay. Et comme on est en oh là là non mais je peux pas dire ça enfin je sais enfin je pense que comme on est en période électorale ça va s'axer un peu sur les femmes politiques.
Oh mais génial.
J'espère qu'elle m'en voudra pas si j'ai trop hâte. Mais voilà c'est vraiment voilà donner la parole à des femmes extraordinaires et puis en fait je pense que cet engagement, ce militantisme, en fait, il est tout bête. C'est juste distiller le fait que dans l'inconscient collectif, que des femmes font des choses. You can do it, tu vois. Et il y a vraiment un truc de. C'est juste, on va le mettre dans le cerveau de tout le monde. C'est normal. Et par exemple, j'ai eu le meilleur retour sur Virago que je pouvais avoir, qui pour moi est exactement ce pourquoi il y a la poudre et ce pourquoi il y a Pénélope Bagieu avec les culottés. C'est j'ai vraiment quelqu'un que je connais, un copain qui vit dans les montagnes, qui a complètement une autre vie, et qui m'a dit j'ai suivi ton truc, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout capté, j'ai pas tout voilà, mais je sais qu'il y a une nana qui a été présidente 4 mandats d'affilée en Islande. Et j'ai dit, en fait, elle me dit, par contre, je me souviens plus de son nom et je sais plus quand, mais je sais qu'il y a une nana qui a été 4 mandats présidente en Islande. Je fais, c'est en fait, déjà, ça me suffit. Ouais. Mais ça me suffit même. J'ai pas besoin qu'on retienne toutes les informations, j'ai pas besoin. Et même, tu vois, t'as retenu une phrase de Ouda Benyamina, t'as retenu ça. Et c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse, en fait, que ça s'ancre et que ça se distille et qu'après ça soit normal.
Et que ça inspire les autres pour faire la même chose, en fait.
Bien sûr.
C'est ça qui est important aussi dans le fait de donner la parole aux gens, c'est de dire tu peux faire pareil si tu veux.
Tu as le droit.
En fait, c'est le genre de démarche qui m'inspire beaucoup, parce que quand j'étais plus jeune, c'est le genre de truc que je regardais pas trop. Et du coup, pour moi, les filles qui m'inspiraient, c'était des filles, des actrices, des chanteuses, mais du coup, elles me paraissaient beaucoup trop inaccessibles et je m'identifiais pas. Et du coup, il y avait vraiment un mur, en fait. Et en fait, depuis quelques années, et même depuis que je suis chez Mademoiselle, je vois des filles qui m'inspirent, qui sont beaucoup plus accessibles et qui m'inspirent beaucoup plus parce que je me sens à leur portée. Et je me dis, mais moi aussi, je peux le faire. Et au 8 mars, c'était hyper fort parce qu'on n'avait que des filles hyper inspirantes qui étaient là. Et en fait, elles étaient totalement normales. Et
quand on s'est aperçu que... Enfin, nous, ça nous l'a beaucoup fait, notamment quand on a interviewé Najat Vallaud-Belkacem et qu'on s'est dit... Donc en fait, c'est une personne humaine qui mange des bonbons comme nous, qui se ronge les ongles comme nous et qui est vivante.
C'était très drôle. Et puis, ce qui est marrant, c'est que Najat Vallaud-Belkacem, pendant qu'on faisait une interview, à un moment donné, elle fait « What the fuck ?» Et après, il y a Clémence qui conclut le podcast en disant « On vous retrouve tout à l'heure après la pause musicale pour continuer à niquer vos complexes. » Et elle en est focus qui fait « What ?» Et c'est vraiment genre... C'est les réactions de tout le monde, en fait, et c'est juste maintenant que tu l'as pas derrière un écran au Parlement, tu l'as pas en personne publique, elle était en tant que personne publique, mais c'était beaucoup plus à la cool, etc. Et donc, du coup, tout de suite, ça devient une personne accessible. Et...
C'est l'avantage de notre société aujourd'hui aussi, c'est que tu peux de toute façon potentiellement avoir toujours un retour sur un mot que tu dis à quelqu'un que tu aimes bien. Tu as quand même beaucoup plus de possibilités d'accéder à certaines personnes, quoi. J'ai la sensation.
Ouais, je suis assez d'accord. Et pour conclure sur la poudre, est-ce qu'il y a un des portraits qui t'a vraiment particulièrement marqué ?
Ah je crois que c'est celui de Pénélope Bagieu, forcément, parce que ça me parle. Et c'est surtout que ça m'a parlé, en fait, dans la démarche de... vraiment dans sa démarche de recherche et de parler de ces filles-là. Et je me suis dit, c'est rigolo parce qu'elle parle sur la façon dont elle dessine, sur la façon dont elle... Et en fait, je me retrouve exactement dans ses propos, alors que je ne vais pas les dessiner, je vais vraiment bosser les textes, je vais ensuite chercher des costumes, je vais ensuite chercher à comment moi les incarner. Donc c'est un truc complètement parallèle, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'on est cousines. Elle, tu vois, après cette phrase, je vais pas la contacter, parce qu'elle va penser que je suis folle. Mais tu vois, c'est comme une cousinade, quoi. C'est ma cousine d'Amérique. C'est où on est liés par ce truc-là. Ouais. Voilà. Elle ne le sait pas, mais moi, je suis très liée à elle. Ok, t'es vraiment chelou. C'est de la fièvre, je tiens à le rappeler, c'est moi tranquille.
Non, c'est. Moi, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire ensemble.
Ouais, voilà. Non, mais je pourrais, enfin, j'ai des idées comme ça de déclinaison de toute façon de Virago et peut-être à un moment donné d'avoir des vrais gens, enfin, des vrais gens dans le cadre, c'est-à-dire les vraies personnes dont je parle dans le cadre à côté de moi.
Oh là là, ah, ça serait fou, ça.
Ouais. 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 Mais j'ai d'autres déclinaisons qui arrivent de.
Regardez comment elle tease.
Attends, c'est pas fait, mais. Voilà.
Donc, je rappelle que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de OGG. Je vous l'ai mis en lien sur le chat.
Oh, c'est gentil.
Et bien sûr, ça sera en lien sur l'article de Mademoiselle. Écoutez, je pense qu'on peut conclure c'est ça qu'on aime, qui était extrêmement intéressant et plein de débats et de réflexions. J'ai trouvé ça très cool. Ouais. Merci à toutes les trois d'être venues pour parler de vos obsessions du moment.
Merci à toi, Louise.
C'était trop chouette. J'espère que ça vous a plu sur Internet et que vous êtes content d'avoir découvert des nouvelles choses. Et j'espère que ça sera vos prochaines obsessions du moment à vous. Je mettrai bien sûr donc toutes les références et tous les liens dans l'article de Mademoiselle dédié au C'est ça qu'on aime d'aujourd'hui. Et le replay sera disponible dès après la fin du live sur YouTube et en audio demain.
Oui, j'ai oublié de dire un truc, juste petite parenthèse, mais la poudre, j'ai vu genre aujourd'hui qu'ils ont lancé un Kiss Kiss Bang Bang pour se
je vais tout de suite chercher ça.
Mieux, okay. Je crois. Voilà, j'ai même pas les tenants et les aboutissants, mais j'ai vu ça aujourd'hui, donc peut-être que ça.
Je cherche.
Voilà, si les gens veulent regarder ça.
Nouvelles écoutes.
Voilà, pendant que tu cherches, je vais voler le livre qu'a apporté Esther et je vais descendre faire les poubelles. Oui.
En effet, nouvelles écoutes, que coûte ? C'est le titre de leur campagne Kiss Kiss Bang Bang.
Très bon titre.
Et en fait, je pense que. Donc, Nouvelles Écoutes, c'est la société de production qui produit la poudre. Et donc, à mon avis, le but, c'est de créer d'autres podcasts que la poudre. En fait, ils ont deux podcasts. Ils ont Banquette et la poudre. Banquette, ça parle de foot, il me semble. Et donc, du coup, à mon avis, ils vont avoir d'autres podcasts qui vont arriver. Et ça, c'est cool.
Oh. De qualité.
Peut-être quatre nouveaux programmes. Ouais. Écoutez, je vous mets le Kiss Kiss Bang Bang tout de suite. Est-ce que j'arrive à écrire et à parler en même temps? Presque. Écoutez. du coup, voilà, donc tous les liens demain avec le Kiss Kiss Bang Bang de Nouvelles Écoutes, très important. Et puis, le podcast sera disponible en audio dès demain après-midi, je pense, sur SoundCloud et sur toutes les applis de podcast et sur le flux RSS des podcasts de Mademoiselle. Donc, pour y accéder, vous allez sur mmz.li/madpodcast, MAD et podcast au singulier tout seul, voilà. Et puis n'hésitez pas à nous donner de l'amour et en parler à vos copains et à vos copines parce que en fait vous êtes les meilleures personnes pour dire pourquoi vous aimez bien les podcasts de Mademoiselle. Mmh. Et moi ça me fait toujours très très plaisir quand je reçois vos messages pour dire que vous aimez bien. Donc voilà, c'est du donnant donnant. Vous êtes gentils et moi ça me fait trop plaisir et j'essaye de refaire des podcasts qui vous font plaisir.
C'est du win-win.
Écoutez, on essaye. On va conclure avec, alors, quel est le morceau qu'on écoute à la fin ? C'est Claire Louise avec le titre My Heart. Ciao, merci Internet.
Salut,
et merci encore
les Internet.
Filles.
Au revoir.
My heart, what are you saying? It's been ages and ages since we last spoke. My heart, I can't read my feelings. I'm no longer intuitive, I bump into walls. My heart, I was falling to hear you when I was lost in the dust. forgot. Now it's too late to go back, and I feel your hands up. Oh. My heart, I've become so dumb. Will I hear you speak again and again? My heart, maybe I've made a mistake since you closed your doors. My heart, today I feel so ashamed. My love is gone, gone. Ooh. Ooh. Oh. Oh.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.